Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Alors, bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. Mon invité cette semaine, l'expression « j'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie », lui a tellement aimé Marché Compostelle qu'il a décidé de créer le superbe chemin Québec-Compostelle de 1200 km de Montréal au fort de Cap-Gaspé. Voici donc Pascal Auger de Québec-Compostelle. Salut Pascal, comment ça va?
Ça va très bien, ça marche mon ami.
Là, tu es en ce moment même en train de marcher.
Ben oui, pourquoi pas mettre l'utile à l'agréable, hein? Alors, tant qu'à jaser de marche, de jaser de rando, de jaser de Compostelle, de jaser du chemin du Québec, ben aussi bien s'activer en même temps.
OK, excellent. Alors, Pascal, pour les gens qui te connaissent pas, moi, je pense que t'es pas mal connu au Québec, mais pour les gens en Europe, c'est qui Pascal Auger?
Pascal Auger, c'est un passionné des communications et du plein air. Vois-tu, moi, je suis un bonhomme qui vient des cantons de l'Est. Mmh. Donc, un environnement très, sans dire campagne, mais quand même nature. Et puis, j'ai toujours été en communion, en communication avec la nature. Nous, on avait je viens de Sherbrooke plus précisément, oui. Et on avait un chalet à Sainte-Catherine-de-Hatley qui est à peu près dans le triangle là, de Sherbrooke, North-Hatley, puis Magog. Et j'ai passé toute mon enfance là de zéro jusqu'à l'adolescence là. Alors, tu sais, les étés éternels quand on est enfant, qu'on voit pas la fin, mais je l'ai passé là. Et c'est comme ça vraiment que je me suis branché avec la nature, avec la liberté surtout, parce que bon, quand on est dans la nature, au chalet et tout, une grande liberté. Et puis, ma liberté, c'est terminé un bon matin quand mon père a donné les clés au nouveau propriétaire, ce qui m'avait arraché le cœur. À l'époque, je comprenais pas pourquoi. J'avais 12 ans, je pleurais comme un enfant. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était ma liberté, ma nature que je venais de perdre, puis je suis content de la retrouver maintenant.
OK. Puis toi, comment ça a commencé, Compostelle?
Écoute, comme bien des gens, on ne sait jamais exactement comment on a été mis en contact avec ça.
Ouais.
Mais moi, profondément, plus précisément, ben c'est autour des années 2000 environ. Comme je disais, j'ai toujours resté un bonhomme dans le plein air et tout. Puis tu sais, le fameux bug de l'an 2000, là où la planète était pour exploser, finalement, ben il s'est rien passé. C'est moi qui l'ai vécu. Parce que moi, à peu près à cette époque-là, j'ai vécu une séparation, j'ai perdu mon gros contrat que j'avais à l'époque. Alors, ça allait un peu rock'n'roll dans ma vie. Puis comme j'aime bien dire, je méritais une pause, mais je savais pas exactement que je méritais une pause. Puis j'ai dû entendre parler de ça à gauche puis à droite, là, des branches, là, de genre d'endroit où tu peux tout simplement aller te poser ou te déposer, prendre du temps pour toi, réfléchir, etc. Et ben c'est comme ça que j'ai fait davantage de recherches pour savoir c'est quoi ça, okay. Compostelle. Puis là, ben je me suis aperçu que c'était un bel environnement où on vivait du bonheur finalement. Et puis ça répondait à mes besoins.
Oh, oh, excellent. Parce qu'au début des années 2000, Compostelle n'était pas encore très, très, très connu. L'Internet commençait un peu, puis moi-même, de mon côté, le seul temps que j'entendais parler de Compostelle, c'était par Marcel Leboeuf, justement, là, qui en parlait souvent à la télévision, mais c'était pas un chemin ultra connu dans ce temps-là.
Non, effectivement, mais ça recommençait. Hein? C'est à peu près à la fin des années 80, début 90, que cette nouvelle vague s'est développée. Puis effectivement, en 2000, Internet commençait. Fait que, tu sais, pour ça, fallait que tu grattes un peu. Fallait vraiment que ça t'intéresse. T'en parlais à gauche et à droite. T'allais à une conférence par-ci, une conférence par-là, en vrai de vrai, et pas nécessairement avec des capsules YouTube.
Ouais.
On a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Mais effectivement, okay. Fallait que tu le cherches pour en entendre parler.
Puis là, c'était quoi la suite? Comment tu as décidé de partir? Puis c'était où ton premier chemin?
Ben, tu sais, comme je dis souvent, moi, Compostelle, là, tu vas là parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, Parce que tu as le goût d'avoir une pause pour du temps pour toi, pour te faire ce cadeau-là. Puis très souvent, les gens, c'est pour des raisons fantastiques, tu sais, dans le sens qu'ils viennent de terminer un événement merveilleux dans leur vie, puis ont besoin d'une pause avant d'attaquer un autre, c'est comme un contrat, des trucs de même. Puis des fois, c'est pour des moments drastiques ou dramatiques, puis c'est souvent comme ça d'ailleurs. Ouais. Des gens qui ont vécu un drame dans leur vie, puis une séparation, peu importe, ils ont besoin d'une pause. Alors moi, c'est un petit peu ça, tu sais, je vivais des affaires assez rock'n'roll dans ma vie. Mm-hmm. Donc, puis je dis ça légèrement et mais tu sais, au lieu de me garocher en bonne réponse, j'ai décidé d'aller marcher Compostelle finalement. Okay, c'est parce qu'on vit des moments, difficiles. Fait que tu sais, regarde, je vais aller essayer ça. Bon, je dis pas que j'étais sur le bord de me garocher en bonne réponse, mais je dis juste que tu sais, on vit tous des affaires difficiles dans notre vie. Puis à un moment donné, alors c'est ça qui m'a amené vers Compostelle. Et puis j'ai eu que du bonheur quand j'ai marché sur le Camino Frances, que j'ai divisé en deux.
Okay.
Parce que quand je suis finalement allé, parce que c'est passé plein d'autres affaires dans ma vie finalement, là, quand je suis finalement allé, je venais de commencer en tant que travailleur autonome, puis je voulais pas m'éloigner trop longtemps de mes clients, si on veut.
Ouais.
Alors, je suis allé deux fois trois semaines,
okay,
mais en prenant quand même un mois d'arrêt. Parce que nous qui avons fait Compostelle, on comprend que quand on arrive de Compostelle, on a besoin d'au moins une semaine pour revenir.
Oui, 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 oui.
C'est un autre monde et tout. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça en deux fois trois semaines.
OK. Mais tu as pris une pause de un mois entre les deux?
Non, je suis parti marcher trois semaines et je suis revenu, puis j'ai pris une semaine pour revenir. Donc, le total, c'était un mois.
Okay.
J'ai fait ça deux fois, deux années de suite pour ce qui est du Camino Frances. Dans le fond, j'ai deux années de suite, mais c'était une à l'automne, puis je suis retourné au printemps par la suite. Fait que c'était presque en neuf mois. C'était vraiment. J'étais encore dans le beat, j'étais encore dans la vibe. Alors, c'était le fun d'y retourner rapidement comme ça.
Puis toi, au début, quand t'es arrivé là, vu que c'était ta première expérience là sur les chemins de Compostelle, t'étais-tu dépaysé un petit peu?
Oui, parce que c'est, je pense que personne qui peut pas être dépaysé. Mm-hmm. T'as beau te préparer tout, puis c'est ça qui est la beauté. Même si tu prépares des trucs, là, le matériel et tout, mais rendu là, tu vis l'expérience. T'sais, moi, je me rappelle quand j'ai débarqué du train, là, je veux dire, j'étais tellement excité, là. Je veux dire, je pense que, tu sais, j'étais à Compostelle. T'as fait ta recherche, t'as fait ta lecture, puis tu vois que c'est millénaire, c'est passé plein d'affaires, tu sais.
Ouais.
Super excité. Alors, c'était vraiment, vraiment agréable, là.
C'est impressionnant, surtout toi, t'as sûrement commencé de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ouais.
Quand t'arrives aux portes de Saint-Jean, la première fois que tu vois ça quand même,
ouais,
on est ailleurs, tu sais, on est ailleurs.
Ben c'est ça, puis tu sais, ça nous impressionne toujours à l'extérieur de chez nous. Malheureusement, je dirais des fois, parce qu'on a tellement du beau chez nous, puis heureusement, on commence à le découvrir davantage, on en reparlera plus tard, mais ça nous impressionne toujours quand on s'est tapé 6-8 heures d'avion, puis qu'on est parti de notre environnement, on est dans on parle une langue différente, même si c'est le français ou sinon l'espagnol et tout, ça nous impressionne. Les montagnes, c'est impressionnant. Le paysage, le décor est différent. Alors, oui, tu sais, j'étais complètement dépaysé, mais j'étais bien.
Ouais.
Je veux dire, même s'il y a eu les courbatures des premiers jours et tout, j'étais bien. Je savais que j'étais à la bonne place.
Mm. Puis la portion psychologique un peu du chemin, ça t'a surpris la première fois que tu es allé? Parce qu'on se retrouve tout seul souvent sur le chemin, sur le Camino, puis on se perd un peu dans nos pensées, puis on devient zen, tu sais, comme assez rapidement. Ça t'a surpris, ça, la portion psychologique du chemin?
Tu sais, moi, sincèrement, je te dirais que ça, je l'ai découvert avec le temps après. Tu sais, c'est comme l'histoire, tu sais. C'est 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard que tu réalises que, tel événement, le verglas, ou si ça, c'est un gros, tu sais, puis tu vois les impacts.
Ouais.
Mais moi, c'est plus comme ça. Quand t'es sur place, t'es en train de vivre, t'es en train de marcher, tu rencontres du monde, t'es dans le bonheur, t'es bien, mais c'est la graine qui a été semée, et après, les mois qui suivent, les années qui suivent, ça t'aide à te faire du bien finalement, puis à te recadrer, comme j'aime bien dire, te mettre les pendules à l'heure. Enfin, moi, je le ressentais pas tant que ça là-bas.
Oh non? Okay.
Mais je savais que j'étais dans le bonheur finalement.
OK. Puis les rencontres là-bas, est-ce que t'en as fait plusieurs? As-tu gardé contact avec certaines personnes que tu as rencontrées là-bas?
Certaines personnes, oui. Ouais. Tu sais, on a des rencontres là-bas qui vont durer une heure, un jour, une semaine, un mois, puis chacune peuvent être enrichissantes. Ouais. Moi, je me rappelle d'avoir soupé avec, je me rappelle plus son nom, avec une fille. On était dans un, je me rappelle plus du village, mais peu importe, j'ai mes photos de ça quand je vois ça, puis je l'ai jamais revue, cette personne-là, mais on a eu tellement une belle conversation ce soir-là, comme il y en a d'autres avec qui j'ai marché régulièrement, parce que, tu sais, veux pas, on revoit les mêmes personnes au fur et à mesure. On marche pas nécessairement avec eux tout le temps, mais on les revoit. Fait que, oui, c'est autant les rencontres éphémères, comme j'aime dire, que les rencontres plus longues. Il y a tellement une richesse là-dedans. Alors, puis c'est ça qui est bien, parce que t'es là-bas sans jugement. Tu sais même pas à qui tu parles. T'sais. C'est peut-être un PDG, comme c'est peut-être plus ou moins un mendiant. T'sais. Mais tout le monde est c'est la même vibe. Tout le monde est sur le même point. Tu sais, ça te dérange pas qu'il fasse 1 million par année ou qu'il en fasse 10 000 par année. Ouais. De quel niveau de société il est. Alors ça, c'est ça la beauté de non-jugement.
Exactement, parce que ça, c'est assez unanime. À chaque fois que je parle à quelqu'un, les personnes me disent toujours la même chose, c'est que sur les chemins, il n'y a aucune classe sociale.
Ben, c'est ça, exact.
Tu sais vraiment pas avec qui tu marches. On a toutes la même amour du chemin. On veut tout aller dormir. On pense à marcher, à aller dormir, se trouver une belle alberguée, ouais. Trouver un bon repas là-bas et apprécier le moment présent. Mais c'est ça qui fait la grosse différence, moi, je trouve, par rapport à peut-être d'autres chemins de randonnée, c'est que il n'y a aucune classe sociale. Fait que tu peux marcher à côté d'un millionnaire, comme tu dis, tu ne le sais même pas.
C'est une des grandes richesses. C'est une des grandes richesses, je te dirais, c'est un des grands enseignements également de ce chemin-là. C'est le non-jugement, c'est de profiter du moment présent, de cette liberté. Oui, effectivement. Ouais.
Puis les notions d'écoute sur le chemin, puis d'entraide en pèlerin. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu? As-tu eu des longues conversations?
Bien sûr, écoute, on ne peut pas ne pas avoir de conversations un peu plus profondes que les conversations futiles qu'on a dans la vie de tous les jours quand tu croises quelqu'un. Ouais. Tu sais, comment ça va? Ça va? Il fait beau, hein? Ouais, il fait frais. Mais c'est pas tout à fait ça dont jase quand on est là-bas. Mais tu sais, oui, c'est des conversations plus profondes. Mais en même temps, c'est pas des conversations désagréables. T'sais, on peut s'imaginer une grosse conversation. Tu sais, les gens qui sont pas habitués à ce genre de trucs-là, c'est lourd. Non, mais ça vient naturellement, hein, parce que tu rencontres des gens de partout à travers le monde.
Ouais.
Fait qu'il s'agit que tu crois, je sais pas, moi, tu sais, un Chinois, un Roumain, ou peu importe, puis, tu sais, on a nos idées de fait de ces cultures-là, de ce pays-là, puis là, ben, ils t'apprennent des choses, puis là, ben, on rentre un peu dans l'histoire, dans la psychologie, dans la société. C'est beau, c'est ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours, s'écouter finalement, hein, pour mieux se comprendre.
Exact, exact. Puis moi, à la base, pourquoi j'ai créé un podcast? Parce que, entre autres, il y a trois questions qui reviennent à chaque invité. Que je pose, c'est des anecdotes. As-tu des anecdotes qui t'est arrivé là-bas? Moi, je parle souvent de petits miracles. Il y en a d'autres qui parlent des hasards. Mais toi, t'es-tu arrivé quelque chose là-bas qui sort un peu de l'ordinaire?
Ben, qui sort de l'ordinaire? Écoute, j'ai pas la grande révélation qui ferait wow, bing, bang. Mais sauf peut-être, garde, moi, j'ai vécu Compostelle, puis je savais qu'il se passait quelque chose avec ça. Puis là, il faut faire attention, hein, parce que t'as des gens qui nous regardent des fois, puis ils nous prennent pour, tu sais, ah ben oui. T'sais. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit que ça a transformé leur vie, change leur vie, puis c'est correct, là. Ouais. Mais c'est les gens qui sont moins habitués, ça... Mais moi, garde, je peux pas dire le contraire, que ça a pas changé ou transformé ma vie. Moi, j'étais un bonhomme qui a toujours fait j'ai toujours été en communication, en radio, en télé et tout. Je le suis encore, je profite de ce talent, de cette expertise-là. Mais quand j'étais à Compostelle, j'étais tellement bien là que je me suis dit, j'aimerais ça avoir un albergue ici. Je pense qu'on a tous un peu cette idée-là, finalement.
Oui.
L'Espagne, c'est beau, c'est le fun, c'est chaleureux, etc. Puis quand tu reviens, ben là, tu reviens un peu dans ton monde habituel, fait que tu reprends ta petite routine, mais c'était pas loin.
Ouais.
Puis, garde, quelques années plus tard, ben finalement, j'ai fait en sorte que je réalise ce rêve de faire quelque chose avec Compostelle. Puis ben, c'est quoi aujourd'hui? Ben, c'est d'aider les gens à se préparer pour vivre cette belle grande aventure-là. Donc, c'est leur donner la chance de la vivre. Donc, tu sais, pour moi, ça a l'air banal, mais moi, c'est quelque chose de gros dans ma vie, là, tu sais.
Ben exactement, ça a changé ta vie, là, d'un sens, parce que là, tu as pris une vocation un peu différente de ce que tu faisais avant ton départ. Puis là, c'est comme si c'était Ren Alberguer, mais au Québec.
Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Puis, on en parlera tantôt avec le Québec, mais c'est un peu ça. Mais tu sais, si tu veux une anecdote un petit peu plus drôle aussi, dans un sens, moi j'aime marcher dans toutes les températures et dans tous les moments de la journée. Puis je me rappelle quand j'étais à Compostelle, je voulais marcher de soir. Je voulais marcher à la noirceur, tu sais. Puis j'aurais même aimé marcher ça de nuit, mais ça n'a juste pas donné. Fait qu'un soir, j'ai poussé la limite un peu. Et puis après que tout le monde ait trouvé leur place, moi, je vais vers 5, 6, 7 heures. Je continuais de marcher. Et puis là, il était 9, 8, 9 heures le soir. Il faisait noir. J'étais dans les champs, les étoiles. Puis j'avais pas encore fini ma journée de marche. Mais tu sais, je m'étais pas donné une grosse journée. J'avais pris des pauses en masse. Mm-hmm. Puis là, j'étais arrivé dans le petit village. Et puis, j'étais arrivé juste à 10h15, puis les albergués habituellement ferment à 10h.
Ouais.
Alors, j'ai pas osé cogner à la porte pour pas déranger. Fait que cette nuit-là, par choix, parce que tout le monde s'inquiète de ça des fois, là, par choix, j'ai dormi sur un banc de parc. Alors, ça n'a pas été la nuit la plus confortable, mais l'année suivante, j'ai repassé dans ce petit village-là, puis j'ai raconté à la personne, puis il m'avait dit, parce qu'il parlait français, « Ben, t'aurais dû cogner! » Moi, je suis trop poli, mais tu sais, c'est des petites choses de même, c'est des petits plaisirs que tu te fais. T'sais. Pour moi, ça a été de marcher le soir à la Belle Étoile. Pour d'autres, ce serait autre chose. Là,
Puis, t'as-tu eu l'occasion d'échanger beaucoup avec les résidents là-bas? Voir un petit peu leur valeur et tout ça. Est-ce que tu as eu un peu du temps pour échanger avec eux?
Ben moi, j'ai marché, entre autres, avec deux dames qui étaient espagnoles. Alors, ça a été agréable c'était pas des résidents, donc sur le chemin, mais c'était agréable de comprendre également, eux, leur compréhension de Compostelle, parce que, tu sais, la majorité des Espagnols vont aller marcher un long week-end, une semaine, 10 jours, et vivent pas du tout la même intensité que nous, on peut vivre, parce que c'est vraiment après une semaine, 10 jours que l'on vit, que l'on commence à se libérer, à être dans le moment présent. Fait que ça a été agréable de le voir comme ça. Puis sur le chemin, oui, tu sais, on échange avec les gens, mais j'ai pas un très fort espagnol. Alors, tu sais, c'est des petites conversations, mais toujours agréable. Les gens sont accueillants. Puis il faut dire les vraies affaires également. On est un petit peu rentable pour eux autres aussi, là.
Ouais.
Mais de beaux échanges avec eux également.
Moi, je trouve tellement que les Espagnols ont tellement des belles valeurs. Là. C'est familial.
Exact.
Je suis toujours impressionné quand on rentre, exemple, sur une étape, on rentre dans un petit village, puis avec le nombre de pèlerins qui passent là, puis qui soient toujours de bonne humeur, puis qui disent « buen camino ». Moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré le plus sur le chemin, c'est les rencontres humaine, puis les valeurs, vraiment les valeurs espagnoles, quand tu reviens à la maison, c'est l'autre sujet que je voulais t'aborder, c'est le retour.
Ouais.
Est-ce que toi, c'est sûr que la première fois, t'es parti quand même un mois, mais est-ce que le retour était difficile pour toi? Parce que le retour est souvent difficile pour les gens qui allent à Compostelle.
Ouais. Ben oui et non. Oui et non. Parce que je le savais. Je m'étais préparé. Puis je le savais, et c'est pour ça que je m'étais donné une semaine pour revenir. Puis je le dis souvent aux gens, à la blague, là, quand je fais des formations, des conférences, je dis aux gens, tu sais, tu reviens chez toi, là, puis là, tu fermes les stores, puis tu restes à la maison, puis tu décompresses pendant... Tu sais, tu veux pas, le lundi matin, avoir un téléphone de la belle-mère là, qui dit « Pis, comment c'était ton voyage? » C'est pas ça, là. Mm-hmm. Tu sais, on les aime, nos belles-mères, là. Mais, tu sais, juste... T'as besoin d'arriver puis de te déposer. Donc oui, ça va être très difficile si tu ne fais pas ça.
Okay.
Surtout quelqu'un qui va oser arriver, je sais pas moi, un jeudi, vendredi, samedi, puis retourner au travail le lundi, là, je veux dire, ça, c'est tous les ingrédients nécessaires pour se péter un burn-out drette là.
Ouais.
T'sais, t'es pas du tout dans le même beat que le reste de la société, parce que juste moi, je me rappelle quand je suis parti puis que j'allais prendre soit le train, l'autobus, pour me rendre, dès que tu commences à penser à un horaire, parce que quand tu es sur le chemin, tout ce que tu fais, c'est marcher, manger, dormir.
Mm-hmm.
Tout. Tu n'as pas d'horaire.
Exact.
Tu te lèves un moment donné, c'est bruyant le matin, ou tu te réveilles naturellement, tu pars, tu manges quand tu veux, tu arrêtes quand tu veux, tu te reposes. Mais là, un moment donné, ça arrête tout ça. Puis là, tu es obligé d'être dans un horaire, tu es obligé de prendre un autobus, un train, puis qui va t'amener à l'aéroport. Hey, rentrer dans l'aéroport, là. Mm. Ça court partout, c'est pressé, ça fait du bruit, c'est comme, oh! Fait que quand tu arrives à la maison, tu as juste le goût de fermer les stores, puis de te ramasser sur ton sofa, puis pas bouger pendant une semaine, tu sais.
Ouais.
Fait que oui, le retour peut être difficile, mais peut être moins difficile si on s'y prépare également.
OK, OK. Ben, c'est une excellente réponse parce que c'est vrai qu'il y a un clash en revenant. Puis que, comme tu dis exactement, même le bruit, là, comme tu parlais dans les aéroports, tout ça,
ouais.
Sur le chemin, c'est tellement tranquille. Je le dis souvent, on se perd dans nos pensées. Puis là, tu reviens dans ta vie quotidienne. Puis toi, tu es encore sur le beat un peu en Espagne.
Ouais.
Puis tu reviens, puis des fois, ben, tout revient exactement comme avant ton départ. Fait que c'est pour ça qu'il y a un clash que je dis souvent aux gens qui veulent commencer ou la première fois qu'ils veulent aller marcher Compostelle, qu'il y a quand même une adaptation puis comme une préparation à faire pour le retour parce que c'est important. Puis comme tu dis, si on revient le dimanche pour on travaille le lundi, là, c'est sûr que ça passera pas de belle journée le lundi.
Puis tu sais, les gens, ils nous écoutent, là.
Ouais.
Les gens, ils nous écoutent, là, puis ils se disent, ben, voyons donc, là, tu sais, là. T'sais, écoute, là, puis il faut le dire, là, on aime profiter de nos moments jusqu'à la fin, tu sais.
Ah, oui.
On vient de Wildwood, de Old Orchard Beach, là, le dimanche soir, puis on travaille le lundi matin parce qu'on va en profiter jusqu'au max, là, tu sais.
Ouais,
là.
Ouais.
Mais, il faut pas faire ça. Non seulement, il faut pas faire ça quand on va à Old Orchard, on va plus là, ben, ces temps-ci, mais ouais. On se comprend, là, tu sais, ouais. Il faut pas faire ça. Il faut prendre le temps de revenir et de faire cette transition-là parce que c'est pas juste de la marche. C'est toute une démarche qui s'est passée dans nous et on a besoin d'un temps pour se retrouver finalement après.
Exactement. Puis toi, tu es un passionné de la marche. Puis tu dis souvent, parce que moi je te suis là, sur ton site, tout ça, tu dis souvent l'importance de prendre son temps. Qu'est-ce que tu veux dire par là, prendre son temps?
Ben. Écoute, prendre son temps, c'est dans tout, dans la vie. À un moment donné, ça fait vieillot dire ça, mais. En vieillissant, on comprend la valeur du temps.
Ouais.
Puis en vieillissant, le temps est de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il nous file entre les doigts. Tu sais, quand on a 20 ans, le temps semble éternel et tout. Fait que c'est important, autant psychologiquement, si on veut, d'apprécier chaque moment qu'on passe avec nous-mêmes, à faire nos idées, nos projets, les moments qu'on passe avec nos amis, notre famille, etc., de vivre et de savourer tous ces moments-là, c'est important de le faire. Et c'est la même... Ça s'étire sur le même principe quand on va faire une rando. Je vois souvent des gens, quand je commence à randonner avec eux, ils marchent très rapidement parce que notre société est basée sur la rapidité, la productivité. Au travail, il faut que tu sois productif, il faut que tu en sortes des cacanes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que ça marche. Là, tu sais, là.
Ouais.
Quand ces gens-là arrivent sur un chemin de rando, ils sont dans ce beat-là. C'est plus des cacanes, là, peu importe. Là, tu sais, je dis peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est plus ça, mais tu es encore sur ce beat de rapidité-là. Puis là, il faut les aider à comme, OK, tu peux prendre ton temps. Parce que quand tu vas prendre ton temps pendant que tu marches, tu vas apprécier tout ce que tu vois parce que c'est tes cinq sens qui explosent.
Ouais.
C'est le même principe que quand finalement tu t'en vas en voyage au Québec, là, mettons, puis tu roules à 120. C'est le fun. Des fois, tu vois des affaires incroyables. Puis tu roules à 120, là, 100, 120, tu sais, là.
Ouais.
Mais imagine quand tu fais ça à 5 km/h. Tu as le temps de les voir en tabarouette puis de les savourer puis de les apprécier. Fait que c'est ça, dans le fond, prendre son temps.
Ça, c'est-tu une valeur que tu as appris de là-bas ou tu l'avais déjà là, de prendre ton temps? C'est la patience que tu as découvert en marchant beaucoup de kilomètres en Espagne ou c'est vraiment tu l'avais déjà en dedans de toi?
Ben, je pense que je l'ai développé avec le temps. Comme j'ai dit tantôt, c'est en vivant, en ayant des expériences dans la vie,
okay.
Qu'on se dit, ben, tu sais, si je vis une belle expérience, je veux pas qu'elle soit éphémère, je vais prendre le temps de la vivre,
okay.
Et pas tout de suite de passer à autre chose, tu sais. Mais c'est quand même dur, tu sais, je dis ça, là, puis je me bats avec ça régulièrement, moi, là, parce que la vie est effrénée, puis tout va vite, puis ça va encore de plus en plus vite, mais à un moment donné, il faut que tu te dises, regarde, là, c'est ça que je fais, c'est ça que j'apprécie, et je veux profiter de ça. Mais quand je fais de la rando, moi, c'est ça, moi, quand je randonne, je prends le temps de voir, mais pour moi, l'important, c'est pas de marcher, puis avoir mon chronomètre au bout de bon, OK, j'ai fait tant de pas aujourd'hui, j'ai marché telle vitesse, puis non, moi, c'est comme, moi, la technologie, quand je marche, là, je suis peut-être une rare bébite, mais j'en ai pas, hein. J'ai mon téléphone avec moi pour prendre des photos, puis après ça, à quel rythme que je marche, à quel battement de cœur mon cœur va, non, ça c'est une certaine forme de compétition avec soi-même, puis moi, ben c'est pas ça que je fais, c'est de la contemplation. Alors moi, j'ai deux vitesses quand je marche, hein. Contemplation puis hyper-contemplation.
Excellent. Bon, ben Pascal, je voudrais te parler maintenant de ton fameux chemin de Compostelle. Tantôt, tu me mentionnais que tu as ramené plein de projets en revenant de l'Espagne, dont celui-là qui est exceptionnel à mon point de vue. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Le chemin de Compostelle au Québec. Comment ça a commencé, ça, pour toi?
Bien, toi, tu dis plein de belles affaires là, que je vais me faire un plaisir à te reprendre.
OK, vas-y, vas-y.
Parce que c'est des fois, ça sort comme ça des gens, puis j'aime ça juste clarifier des choses.
Vas-y.
Premièrement, c'est pas mon chemin.
Okay.
Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai créé Québec Compostelle, quand je dis dans mes présentations, hein, c'est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec Compostelle. Quand j'ai préparé ça au départ, moi, là, un petit peu naïvement, c'était surtout pour aider les gens à se préparer à aller marcher. Les gens qui partaient du Québec, qui veulent aller marcher à Compostelle. Et quand on est dans un projet comme ça, puis qu'on se part un projet, on est coaché et tout, puis là, ben, tu fais de la recherche. Puis là, j'ai réalisé que, hey, il y a des chemins au Québec, il y a des circuits également. Fait qu'on va aider également les gens à marcher sur différents circuits à travers le Québec. Fait que c'était très bien. Mais là, je me suis aperçu qu'il en manquait quand même un, parce que là, je m'impliquais de plus en plus dans les médias sociaux. Puis avec des choses que j'avais entendues dans le passé, il en manquait un. Encore plus aux valeurs Compostelle. Puis quand je dis plus, c'est rien d'enlever aux autres, là. C'est qu'un chemin au départ qui est ouvert à longueur d'année, qui a une longueur un petit peu plus exhaustive, donc qui demande un effort supplémentaire, qui passe sur différents environnements au Québec, pas juste dans une région, donc qui permet de traverser le Québec au complet. Et je voyais des gens dans les médias sociaux et tout qui avaient soif d'avoir ça au Québec. Puis tu sais, à un moment donné, là, t'as le choix dans la vie, là. Je veux dire, tu vois des gens où tu peux être comme les autres puis dire, ben tu sais, ce serait le fun d'avoir, là, c'est bien, écoute, on va le faire. Je veux dire, c'est pas compliqué. C'est du temps, mais c'est pas compliqué. Alors, je me suis assis, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, comment on pourrait traverser le Québec? Puis là, je dis traverser, là, je veux dire, de l'ouest à l'est, c'est sûr, on va pas au Saguenay, on va pas en Abitibi, tout ça, puis il y en a bien des gens qui me disent qu'on devrait aller là. Ça viendra peut-être un jour, là. Mmh. Mais comment on peut traverser le Québec puis trouver des lieux importants? Puis, ben, je veux dire, moi, je me basais sur Compostelle. Il y a quelques lieux de départ importants comme le Puy, Saint-Jean-Pied-de-Port. Mmh. Alors, je me dis, Québec, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ben, Montréal, c'est une ville internationale où les gens atterrissent puis qui pourraient commencer à marcher quand ils viennent de l'international. Puis, un lieu final d'intérêt, ben, tu regardes la carte, qu'est-ce qui a commencé le Québec? C'est le fleuve, tu sais.
Ben oui.
Alors, pourquoi pas retourner dans nos racines? Et surtout, on fait un sacré beau parallèle avec Compostelle quand on termine au phare de Cap-Gaspé.
Ben oui.
Donc, un peu comme quand on termine au phare de Finistère ou Mouchia. Et puis, Gaspé veut dire « bout du monde », alors que Finistère veut dire « fin de la terre ». Fait que, tu sais, on avait tout, là, tous les ingrédients. Puis, pour faire du beau développement puis découvrir notre Québec à 5 km/h, alors on a vraiment tout au Québec pour vivre le bonheur de Compostelle. Et le chemin du Québec n'est pas un chemin de Compostelle au Québec.
Mm-hmm.
Compostelle, c'est en Europe. Il y a plusieurs variantes pour Compostelle, mais Compostelle, c'est un endroit dans le nord de l'Espagne. Il n'y a pas de Compostelle au Québec. Il n'y en a pas un qui peut se dire un Compostelle ci, un Compostelle ça. Ici, on a le chemin du Québec, comme on a d'autres chemins, et chacun est unique. Il fonctionne à sa manière. Le chemin du Québec, lui, ben, il fonctionne aux valeurs Compostelle. Et t'en as plein d'autres catégories au Québec. T'as des circuits qui sont plus de rando tourisme, plus de rando autonomie, mm-hmm. ou plus de rando communautaire. Le chemin du Québec, c'est de la rando communautaire parce que comme Compostelle, on se promène d'une communauté à l'autre. On se promène pas dans le bois. Oui, ça arrive, mais à tous les soirs, on va se retrouver dans une communauté où on va pouvoir dormir sur un lit de camp, sur un matelas gonflable. Donc, on va toujours les soirs se retrouver à l'environnement où on peut se nourrir également. Et c'est ça, Compostelle. Et c'est cette saveur-là qu'on a voulu amener avec le chemin du Québec.
OK. Puis, c'est-tu tout balisé ou comment ça fonctionne exactement?
Ben, tu sais, le chemin du Québec a à peine quelques années comparativement à Compostelle qui a 1200 ans. Fait qu'on a eu le temps de le développer, Compostelle, avec des sources financières et du tourisme par-ci et là. Pour l'instant, au Québec, on fonctionne, puis tu sais, c'est la tendance maintenant, hein, on fonctionne de manière électronique. Donc, toutes les cartes du Chemin du Québec sont disponibles gratuitement sur le site internet chemindu-québec.ca. Okay. Et les gens peuvent s'en servir donc pour marcher. C'est en géolocalisation, on suit les cartes. Puis tu sais, on suit les cartes, on n'a pas toujours le nez sur nos cartes. Des fois, on va marcher 3, 4, 5, 20 kilomètres en ligne droite. Là. Fait que t'en as plus besoin de ton téléphone puis ta géolocalisation, tu continues.
Ouais, ouais.
Fait que tout est là, ça fonctionne extrêmement bien. Puis ça nous permet donc de découvrir, redécouvrir bien des petits villages qui... On n'a jamais passé de manière touristique auparavant. T'sais, nous, on s'éloigne des grands circuits.
Ouais.
On veut être dans des environnements tranquilles. Donc, ça nous permet de découvrir des communautés qui... On connaissait même pas les noms, l'existence auparavant. Alors, c'est ça qui est vraiment génial.
Fait que le départ en tant que tel, la première étape, c'est à partir de l'aéroport?
Exactement. Tu peux vraiment partir de... Écoute, c'est pas compliqué. Là, tu débarques de l'avion. Puis, tu sais, ça, là, d'ailleurs, c'est intéressant que je te parle de ça.
Mmh.
Parce que ça m'a été influencé par un gars, un moment donné, avec qui j'ai parlé, qui, lui, m'avait parlé de son projet de débarquer de l'aéroport à Paris et de commencer à marcher à partir de là. Tu connais ce gars-là?
Ouais, je pense que je le connais, ouais.
Ouais, un certain Daniel Lafont, là. Et puis, j'ai trouvé l'idée tellement géniale. Puis là, je me suis mis à regarder, ben, c'est-tu possible de faire ça partir de l'aéroport? Ben, je suis allé à l'aéroport. J'ai marché, ben oui, tu traverses le stationnement, tu passes en dessous du chemin de fer de Via Rail, il y a un beau petit tunnel, ensuite tu passes en dessous de l'autoroute, tu te ramasses l'autre bord à Dorval, tu t'en vas sur le bord du fleuve, puis là, ben, tu marches à partir du fleuve jusqu'au Vieux-Port. T'as deux choix, là, tu peux passer sur le canal de la Chine tout le long, ou tu peux passer par l'Oratoire et le Mont-Royal, qui peut être très intéressant pour des touristes.
Ça,
là.
C'est exceptionnel, ça, c'est exceptionnel comme endroit.
Ça, c'est nos deux choix de départ, puis après ça, ben, tu continues là, vers Chambly, Saint-Jean, Farnham, Granby, toujours soit des pistes cyclables, des pistes multiservices, des sentiers en forêt, des routes rurales, des rangs en campagne, donc toujours dans le milieu tranquille. Je t'avoue qu'il y a des fois, pour faire la connexion en deux bouts, il faut prendre une route un petit peu plus passante, on n'a pas le choix, mais le chemin est misé pour éviter des choses comme la 138, la 132, etc. C'est des grandes routes, on veut toujours éviter ça pour pouvoir maximiser la sécurité et le bonheur, la tranquillité de la paix.
Puis, Pascal, parle-moi des hébergements. Commences-tu à avoir des gens qui s'offrent pour héberger les pèlerins ou les marcheurs qui décident de partir, qui voudraient le faire au complet, finalement, les 1200 kilomètres? Ils commencent à avoir plus d'hébergements?
Mais on commence surtout à sensibiliser davantage les gens parce que, tu sais, quelques années seulement pour expliquer à des gens qui n'ont jamais compris c'est quoi Compostelle puis qu'on a besoin d'un environnement abordable pour dormir, c'est pas évident, là, parce que, tu sais, puis ça, c'est une autre raison pour laquelle on a tracé le chemin du Québec, c'est que la plupart des autres circuits, puis ça fonctionne avec les gîtes classiques. Puis un gîte classique, ben, tu sais, c'est un B&B, un Airbnb, etc., qui va être souvent à minimum 50 à 150 piastres, tu sais, là. Fait que tu peux pas marcher deux mois à 150 piastres la nuit, là, tu sais, là. Fait que nous, notre sensibilisation était de rencontrer les municipalités, les communautés, les députés, les ministres, puis leur dire qu'écoutez, on a besoin d'environnement où les gens peuvent dormir à un taux acceptable, un peu comme Compostelle, c'est 5-10 €. Donc, nous aussi, on est à peu près 20 $. Là.
Ouais.
Mais c'est pas facile d'avoir des... Parce que, tu sais, quand tu pars du principe que les gens, un hébergement, c'est 50-75-100 $, là, tu te dis, ben, on aurait besoin d'une place pour les gens pour qu'ils marchent à 20 $ la nuit.
Ouais.
Tu sais, souvent, très souvent, ils vont le comprendre. Puis d'autres fois, c'est comme, ben là, voyons, on peut pas faire ça, là, tu sais, là. Fait que, mais on commence à sensibiliser davantage parce que les gens comprennent le concept, parce qu'il y a des gens sur le chemin, qui ont marché Compostelle, puis qui comprennent. Puis on demande pas la lune non plus, là. Tout ce qu'on a besoin, là, c'est une salle communautaire, un sous-sol d'église, etc., où les gens vont être dans des lits de camp, dans des matelas gonflés. Fait que, tu sais, on demande pas de la literie, on demande pas une salle privée, une chambre privée, une salle de bain privée. Tu sais, on est en communauté, là. Fait que là, ça devient un peu plus facile, finalement, à aller chercher des environnements comme ça. Mais, tu sais, il y a encore du travail à faire.
Ouais.
Mais depuis le temps qu'on y est, là, ça se développe de... Puis de plus en plus, tu as des gens, des individus qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça en accueillir. » Fait que là, des fois, quand il y a des gens qui marchent juste à seul ou en couple, ben, on peut les référer à eux autres au lieu dans un grand dortoir. Fait que, tu sais, oui, ça se développe au fur et à mesure. Puis c'est ça qui est vraiment génial.
Puis... Juste par curiosité, les églises, Il me semble qu'il y a beaucoup d'églises. Il n'y a pas moyen que les gens pourraient dormir dans les églises. Tu t'es-tu renseigné beaucoup là-dessus?
Ça, c'est le premier réflexe qu'on a tout le temps. Moi-même, je l'avais. Jusqu'à temps que je comprenne deux, trois affaires.
OK.
Premièrement, des églises, il y en a de moins en moins, parce que les gens vont plus à l'église. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les églises? Souvent, soit qu'ils sont abandonnés puis ils sont plus habitables, soit qu'on les a vendus puis on les a transformés en entrepôts. Oui, je connais, j'ai une image en tête d'une église qui est un entrepôt. Soit qu'ils sont devenus des condos. Il y en a plus.
Ouais.
Puis les presbytères, ben les presbytères, c'est le même principe. C'est devenu des lieux d'habitation. Des fois, c'est devenu des gîtes et tout. Fait que des églises, il n'y en a pas tant que ça. Mais oui, quand il y en a sur notre chemin, on demande si c'est possible d'utiliser une partie de l'église. Souvent, c'est le sous-sol. Puis tu sais, à quelque part, on dit les vraies affaires. Ça fait un beau petit revenu pour l'église également, qui la dîme mais pas forte-forte, là. Fait que ben ça leur permet d'avoir un peu un revenu quand nous, on pense. Puis plus on va pouvoir le développer, mais plus il y en aura. Mais tu sais, après ça, il y a toujours un local dans une municipalité, aussi petite soit-elle, le local ou la municipalité, il y a toujours un local qui peut servir. Une salle communautaire, le club de l'âge d'or qui s'en sert une fois ou deux par semaine ou par mois. Il y a toujours un local.
La salle de chevalier de Colomb aussi.
Ben, c'est ça.
Ouais.
Exactement. Il y a toujours un local, mais les gens ne le réalisent pas. Parce que quand on leur dit, ben nous, on aimerait aller dormir quelque part dans votre village, mais les gens qui sont pas habitués, ben là, ils se disent, OK, mais attends une minute, là, qu'est-ce que j'ai? Là? J'ai pas ça, moi, un hôtel. Non, regarde, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de quatre murs, un toit, un matelas aussi bas, de base soit-il, un peu de chauffage, puis une toilette. Tu sais, c'est tout.
C'est minime, là.
C'est... Ben, c'est ça. Si on a une douche, c'est un bingo supplémentaire. Mais, tu sais, il y a des fois, moi quand on développe le chemin, là, moi, je veux absolument rien imposer aux gens. Fait que je leur dis pas, ben là, ça va nous prendre une douche, là, parce que... Non, regarde, c'est ce que je viens de te dire. Un local, des matelas, on est bien. Puis si vous trouvez qu'à un moment donné, ça vaut la peine d'installer une douche, ben, vous en installerez une. Puis tu savais, c'est même arrivé à quelques endroits. Entre autres, j'ai une église en tête, qu'eux autres, il y avait une couple de salles d'eau, puis ils en ont viré une en douche. Fait que maintenant, quand on marche, on a une douche là.
Okay.
Il y en a d'autres... J'arrive, là, il n'y a pas longtemps, d'une rando en Gaspésie ou aux autres. On est dans une grande salle communautaire. Il n'y en a pas de douche. Ben, ils nous ont patente. Écoute, on a pris notre douche à côté de la Zamboni parce que c'est aussi un parc l'hiver pour une.
Okay.
Écoute, c'est génial de voir la débrouillardise et la volonté des gens. Fait que c'est ça qui est. Tu sais, tantôt, tu parlais, là, de la beauté, de la bonté des gens avec qui on rencontre quand on est à Compostelle. Là.
Ouais.
Ben, tu sais, on a ça ici aussi. Puis c'est vraiment beau de voir la complicité qui se développe entre les marcheurs puis les gens qui nous accueillent. Moi, je le dis tout le temps, la marche fait ressortir le meilleur des gens. Autant les gens qui marchent que les gens qui nous accueillent. Fait que ça se développe tranquillement et c'est ça qui est magnifique.
Il y a un respect aussi. Il y a un grand respect.
Ouais.
Quand tu vois des marcheurs marcher de longues kilomètres, t'es un résident, tu vois ça. Il y a quand même une certaine admiration, tout ça. Mais justement, en région, ce que je voulais te poser comme question, est-ce que le fait de voir des marcheurs comme ça, ça inspire des gens qui sont dans les régions puis qui joignent à vous finalement pendant vos marches?
Pas nécessairement. Des fois, oui, mais tu sais, je dis pas nécessairement, mais en même temps, oui, ça arrive fréquemment, finalement, qu'on a des gens qui se sont joints là. Puis ça, c'est génial. Hein? Je me rappelle, entre autres, l'an passé, quand on est allé marcher en Gaspésie, dans le secteur de Lance-Avallo. Là, moi, je commence à les connaître, les petits villages, mais je sais que pour des gens, c'est où, ce Lance-Avallo? Mais Lance-Avallo, c'est juste à côté de Saint-Maurice-de-l'Échouri. Hey, là, je vous avance encore plus. Hein? Mais tout ça pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté avec nous de Lance-Avallo, qui avait marché un 20-25 km cette journée-là. Puis c'est génial parce que cette personne-là, tout le long du chemin, pouvait nous raconter son patelin, son histoire, ses anecdotes. Plus souvent qu'autrement, quand on arrive dans un village, dans un coin de rue, les gens sont impressionnés, puis là, on se met à jaser, puis là, ils vont commencer à nous raconter leur histoire.
Ouais.
Tu sais, ça, c'est fascinant.
Ben oui.
Mais là, tu sais, que des gens nous accompagnent puis qui nous parlent de chez eux avec fierté et tout, là, ça, c'est vraiment génial. Puis ça, quand je vois ça, là, ça me fait tellement, tellement plaisir parce que c'est ça qu'on veut voir au Québec, cette affinité-là, cette complicité entre les marcheurs puis les gens qui nous accueillent. Fait que ça, c'est... Puis tu sais, je l'ai dit, puis tantôt, c'est un des mots que tu disais, c'est que d'avoir créé mon chemin, mais c'est pas mon chemin, c'est le chemin du Québec, puis moi, je veux tellement... Et c'est pour ça que le chemin du Québec, c'est un OBNL, hein? Ouais. C'est un organisme à but non lucratif, avec son conseil d'administration, avec ses bénévoles et tout. Puis moi, écoute, j'ai tout simplement été une bougie d'allumage, puis moi, je souhaite maintenant que les gens s'accaparent du chemin, de leur chemin, que les régions s'accaparent de leur chemin, qui en prennent soin, qui accompagnent et qui développe le chemin, tu sais. Alors, on est tous gagnants quand on travaille ensemble là-dessus, puis c'est pas ben un gros travail à faire, là.
Oui, mais Pascal, quand je dis ton chemin, t'as quand même un petit peu de pas de reconnaissance, mais c'est grâce à toi si ce chemin-là existe. Je dis pas que c'est toi qui as inventé le chemin, mais c'est toi qui a fait les liens entre les chemins, puis que... Tu sais, quand même, il y a quand même une certaine petite reconnaissance à faire de ton côté, quand même, là.
Oui, oui, si on veut comme ça, mais tu sais, toute grande, je te prends un exemple, toute grande invention, la radio, la télé, le cinéma, tu sais, on a toujours rattaché un nom à ça.
Mm-hmm.
Mais il y a eu plein de gens qui, en même temps, ont pensé à la même chose, puis c'est collectif que ça s'est développé. Moi, comme j'expliquais tantôt, moi, quand j'ai décidé de tracer un chemin, parce que j'utilise même pas le verbe créer, moi, j'ai rien créé. Okay. Les chemins existent au Québec depuis 400 ans.
Ouais.
Moi, j'ai tout simplement relié des chemins. Et quand j'ai décidé de relier des chemins, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une volonté, il y a des gens qui en parlaient, puis moi, j'ai dit, garde, je suis juste la bougie d'allumage, et j'aime bien, moi, utiliser le terme que je suis l'instigateur coordonnateur du chemin du Québec. Et ce chemin-là, nous appartient tous, finalement.
Ouais.
Alors, j'ai été une bougie d'allumage, mais après ça, c'est à nous tous de le développer et d'en prendre soin.
Et pour les gens de l'Europe qui ne connaissent pas beaucoup le Québec, ils vont se retrouver énormément dans les chemins, parce que moi, je dirais que c'est un mélange de Camino Francés, Chemin du Nord, même le chemin portugais, parce que
t'as une grande
partie qui est sur le bord de l'eau.
Ouais.
Puis t'as une partie un peu rurale, t'as une partie dans le Vieux-Port, on peut comparer ça un peu à Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut comparer ça même à Compostelle, je dirais. Plus même à Compostelle. Fait que au Cap Finistère, c'est au Cap, quand tu arrives à ton arrivée, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances dans certains cas, finalement.
Ouais.
Mais je voudrais que tu me parles un petit peu de la différence d'ambiance. Est-ce que tu vois une différence d'ambiance entre les deux chemins? C'est certain qu'il n'y a peut-être pas la notoriété du chemin de Compostelle, mais y a-tu quand même des ressemblances?
Oui, il y a des ressemblances, puis il y a des différences, mais ce qui est fascinant, puis tu as bien fait tes devoirs, c'est que le chemin du Québec, sur ces 1200 kilomètres, c'est comme si c'était un mélange de tous les chemins de Compostelle. Hein? Parce qu'évidemment, il faut dire les chemins de Compostelle, il y en a plusieurs. Là. C'est comme si, parce que oui, on a, comme tu dis, côté plus grande ville, que ce soit Compostelle, Le Grognon, Burgas, etc., avec Montréal, ou même à Québec, on passe par Québec également.
Ouais.
Puis tu sais, après ça, tu as des endroits plus plats, comme la Meseta, tu as des endroits plus en montagne, quoi que ça se compare pas aux Pyrénées, mais quand même, on a notre Gaspésie, tu as des endroits plus chemin de terre, tu as des endroits, tu sais, tu as vraiment de tout.
Ouais.
Puis tu as des endroits où les villages sont plus proches, tu as des endroits où les villages sont plus loin. Puis tu sais, c'est exactement ça, tous les chemins de Compostelle. Si tu fais la Via des Platas, c'est plus chaud, les villages sont plus loin, comme le chemin, comme la voie d'Arles, etc. Si tu fais le Camino Francés, les villages sont plus proches, tu as plus de services, comme notre secteur citadin ici qu'on appelle sur le chemin du Québec.
Ouais.
Alors effectivement, c'est un
très beau mélange.
C'est vraiment là un beau mélange de tout ce qu'il y a à Compostelle. Et c'est pour ça aussi que les Européens ne seraient pas nécessairement dépaysés en ce sens, mais en même temps le seraient parce que c'est une autre culture. Et tu sais, comme marcher à l'automne, c'est autre chose. Marcher à l'hiver, c'est autre chose. On a beaucoup d'Européens qui veulent le découvrir. Mais en même temps, je pense que de plus en plus aussi, par toutes sortes de développement puis de ce qu'on fait avec les médias sociaux, les Européens sont au courant de notre chemin, ont hâte un jour de le faire. Tu sais, d'ailleurs, tu parlais d'une anecdote un peu plus tôt.
Ouais.
Au Québec, pour le chemin du Québec, vraiment, on a voulu se donner plein de parallèles. On a nos cartes, on a tous les paysages qu'on vient de mentionner. On a également notre carnet du randonneur, donc notre version de la crédentiale.
Ouais.
Puis on a notre version également de la Compostelle. Avec notre certificat d'accomplissement. Mais tout ça pour dire que le tout premier carnet que l'on a offert, c'est un couple de Français qui se l'est procuré.
Ah.
Et ce couple-là, est venu marcher et c'est eux qui sont les tout premiers à avoir réalisé le chemin du Québec. Ce sont eux qui ont reçu les premiers le certificat d'accomplissement.
Wow!
Et c'est drôle parce qu'eux, ils l'ont fait et puis ils sont retournés dans leur patelin. Ils en avaient fait la moitié.
Ouais.
Ils sont retournés dans leur patelin et ils en ont parlé. Ils ont fait quelques reportages dans leur coin. Puis là, il y a un autre couple dans leur coin que ça les intéressait. Fait que l'année suivante, on avait les deux couples de Français qui étaient sur le chemin en même temps.
Mmh.
Un qui faisait la variante sud puis l'autre la variante nord parce que le chemin du Québec a deux variantes. Un qui passe par Québec puis un qui passe peut-être plus là, par la Beauce, si tu veux.
Ouais, ouais.
Et les deux, cette année-là, ont accompli leur chemin. Alors, c'est les deux qui ont leur certificat d'accomplissement. Depuis ce temps-là, cet été, on a notre première Québécoise qui a accompli les critères du chemin du Québec. Elle ne l'a pas fait au complet, mais tu sais, comme Compostelle, tu n'es pas obligé de faire Compostelle. Ben, dire au complet, c'est toujours bizarre, là, mais il faut juste que tu fasses les 100 derniers kilomètres là, pour recevoir ta Compostelle.
Ouais.
Mais au Québec, on a un petit peu mis ça un petit peu plus agréable. Il faut que tu fasses au moins 100 kilomètres dans 4 des 5 secteurs. On a 5 secteurs là, pour marcher le chemin du Québec.
Ouais.
Donc, en bout de ligne, sur 1200 kilomètres, il faut que tu aies fait au moins 400 kilomètres.
Okay.
Donc, c'est un peu plus respectable.
Ouais.
Alors, c'est notre critère. Donc, on a nos deux premières Québécoises qui ont atteint ce plateau-là dans les derniers mois, qui vont recevoir leur certificat d'accomplissement également.
Ouais.
Donc, tu vois, il y a plein de parallèles tout en ayant notre différence québécoise.
Oui, exact. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la Beauce. Imagine-toi les Français quand ils vont voir les arbres à l'automne dans la Beauce.
Ben oui.
Les couleurs, c'est extraordinaire, là. Les plus beaux paysages dans la Beauce, c'est sublime, là. C'est sublime.
T'as-tu bien des amis en Beauce, toi?
Ben, ma femme, elle vient de la Beauce.
Ah, OK, d'accord. Puis elle te regarde présentement.
Oui, elle me regarde. Bon. Oui, exactement. Mais, c'est beau, la Beauce. Moi, j'adore ça.
C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça me permet, moi, souvent, les gens me disent « Ouais, Pascal, c'est lequel ton secteur préféré sur le chemin du Québec? » Moi, la réponse la plus facile, c'est « Garde, si je te demande, toi, c'est lequel ton enfant préféré? » Non, hein? Mais moi, c'est facile, j'en ai juste un. Mais c'est juste pour dire que chacun des secteurs du chemin du Québec est unique, est beau, est bon, est agréable. Alors, tu sais, passer à travers Montréal, les gens, souvent, quand je leur dis ça, qu'on marche à travers Montréal 25 km, là, ben oui, tu sais, ils se roulent les yeux par en arrière. C'est parce qu'on pense trop comme des automobilistes puis les cônes oranges. Marcher Montréal, là, c'est tellement agréable de partir de Dorval puis te rendre jusqu'au Vieux-Port. Là.
Ben oui.
Tu redécouvres la grande ville. Tu le fais à pied. Tu n'es pas pogné dans un bouchon de circulation. Fait que c'est le même principe quand tu marches dans la Montérégie où c'est plat.
Ouais.
Si tu passes à travers, comme tu viens de dire, la Beauce, où là, ça commence à avoir des petites collines, quand tu es dans Gaspésie, puis là, ben, tu es dans certaines journées, tu es 100% dans la montagne, puis tu termines sur le bord du fleuve. Écoute, c'est tellement, tellement beau, le Québec. Marcher le Québec, c'est fantastique.
Je voudrais que tu me parles aussi de quelque chose que tu fais d'assez... Ben, impressionnant, puis c'est super. Moi, j'adore. C'est tes randos-séjours.
Ouais.
Parle-moi-en de ça, des randos-séjours.
Tu sais, les randos-séjours n'ont jamais été sur le plan de match, hein?
Ouais. C'est venu avec le temps?
Par défaut.
OK.
C'est venu par défaut parce que, tu sais, quand tu pars un projet, tu as ton idée, peu importe c'est quoi, là. Tu veux vendre là, des fers à friser, tu veux vendre des pains, tu sais, peu importe ce que tu fais. Tu as ce que tu veux faire, ce que tu penses qui est un besoin, ce que les gens veulent avoir. Puis après ça, tu découvres des besoins. Fait que moi, au départ, ce que je voulais, comme je disais, c'était d'aider les gens à se préparer pour aller faire de la rando au Québec, à Compostelle. C'est devenu au Québec ou Compostelle. Puis par des formations, par des conférences, etc. Puis là, je me suis aperçu que même avec des formations et tout, il y avait encore des gens qui n'étaient pas tout à fait prêts puis qui avaient besoin qu'on les prenne par la main positivement juste pour qu'ils aillent chercher une assurance,
franchir l'étape suivante, là, juste être bien accompagné.
Ouais, ils étaient pas prêts à partir tout de suite pour Compostelle ou partir tout seul, tu sais, de la confiance, tu sais. Fait que là, je dis, bon, ben, coudonc, on va faire ça. On va partir, on va marcher une semaine ensemble sur le chemin du Québec. On va faire découvrir notre Québec à pied. Fait que ça va répondre à leurs besoins. Et par la suite, ben, ça va peut-être leur donner la confiance supplémentaire. Parce que souvent, c'est ça qu'on entend, c'est partir. Oh, moi, je veux pas partir marcher tout seul à Compostelle. Ça me fait peur et tout. Et pourtant, tu sais, c'est tellement bon, c'est tellement facile. Puis il faut que tu ailles marcher tout seul. Puis là, c'est drôle parce que oui, ça, c'est en train de se faire. Parce que les gens, ils disent, bon, ben, je vais venir me préparer en faisant un rando séjour d'une semaine. Puis il y en a d'autres qui prennent goût. Ils aiment tellement ce qu'on fait parce que le rando séjour, c'est pas un troupeau. C'est pas un voyage organisé. C'est pas des gens qui se suivent avec un petit guide en avant, avec un drapeau blanc, puis tout le monde doit le suivre quand on voit les gens débarquer les autobus. J'ai rien contre ça. Bravo les gens qui vont faire des voyages organisés ça, sur la planète. C'est correct. Mais nous, la rando, il faut que tu vives la liberté. Ça revient à peu près à un des premiers points qu'on a parlé tantôt quand j'étais plus jeune, tu sais, la liberté et tout, marcher, manger, dormir. Tu peux pas partir faire de la rando à dire aux gens, vis ta liberté, puis il faut que tu me suives. Non. Fait qu'un rando séjour, on se rejoint tous au point A. Puis on commence notre semaine de rando. Puis à tous les soirs, ben il y a un endroit qui a été déterminé où les gens peuvent aller dormir, qui est proposé. Sinon, s'ils veulent aller à l'hôtel du coin parce qu'il y en a un 5 étoiles, ils peuvent y aller aussi. Mais les gens, souvent, vont se retrouver dans la salle communautaire qui est proposée par la communauté.
Ouais.
Et donc, entre les deux, c'est exactement comme Compostelle. Tu marches à ton rythme. Tu t'arrêtes quand tu veux, tu prends les pauses que tu veux, tu marches avec des gens, tu marches pas avec des gens, tu fais ta patente. Fait que c'est vraiment... Et c'est pas parce que tu es avec un ensemble de gens que tu peux pas vivre ta liberté, au contraire. Fait que... Puis là, les gens, ben ils prennent goût parce que là, le soir, oups, ils se retrouvent, ils sont pas vus pendant la journée. Mmh. Puis là, ils échangent sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et tout pendant la journée. Ça fait tellement des beaux échanges. Ça fait exactement ce que l'on vit quand on est à Compostelle. Puis ça, je suis vraiment content puis fier de voir que cette magie-là existe également chez nous.
Mais ça me fait penser un peu, je sais pas si tu es d'accord, mais les gens à Compostelle qui le font par tronçon.
Ouais.
Moi, j'ai marché énormément avec des Français, exemple, qui marchent pendant une semaine de temps.
Ouais.
Puis l'année d'après, ben, ils recommencent où ce qui était rendu finalement. Mais toi, tes randos séjours, t'es pratiquement jamais aux mêmes endroits. Là. Tu changes toujours des...
Toujours. Parce qu'on marche toujours sur le chemin du Québec. Le chemin du Québec est à 1200 km. Quand on marche une semaine, on ne marche pas 200 km.
Ouais.
Donc, à tous les mois, on est sur un tracé différent du chemin du Québec. Là, tu vois, en septembre, on était en Gaspésie. Et puis, donc là, en principe, de mars jusqu'à septembre, on fait les 1200 km.
Ouais.
OK? Puis là, ben, comme octobre, novembre, décembre arrive, ben là, c'est plus des moments de chasse, il y a de la neige. Fait que marcher dans la neige en Gaspésie, c'est pas toujours évident non plus, ça se fait, là, mais...
Ouais.
Fait que là, dans ce temps-là, rendu en octobre, novembre, décembre, on va être plus dans des côtés citadins et tout.
Okay.
Et puis en mars, bon, on va recommencer. En mars, souvent, on fait de Montréal jusqu'à Richemont, genre. Après ça, en avril, on fait de Richemont jusqu'à Vallée-Jonction. Après ça, on fait de Vallée-Jonction. Tu vois, on est toujours sur un tracé différent pendant la nuit. Quelqu'un pourrait faire le chemin au complet à raison de une semaine par mois pendant 6 mois.
Ah, oh. Wow! Est-ce que les gens peuvent... vous encourager dans le sens que, tu sais, pour le balisage, tantôt on parlait du balisage. Y a-t-il une façon qu'on pourrait mettre du balisage sur les chemins?
Ben, on est là-dessus, tu sais. On travaille avec l'OBNL, le chemin du Québec. On a plusieurs projets, puis on travaille là-dessus, entre autres. Ça, c'est une histoire de ministère du Tourisme et de ministère du Transport. Et ces temps-ci, ils ont d'autres chats à fouetter. Mais oui, on est là-dessus pour voir comment on pourrait éventuellement, tu sais, l'identifier. Mais il faut travailler avec eux au niveau gouvernemental à ce niveau-là. Mais après ça, il faut travailler avec les communautés.
Ben oui.
Puis, tu sais, comme on travaille avec une centaine de communauté, ben c'est du travail, hein. Fait que puis tout ça, tout ce qu'on fait pour le chemin du Québec, c'est du bénévolat. Il faut bien comprendre, tu sais. Mmh. Aujourd'hui, on a parlé de deux choses vraiment, puis il faut vraiment les départager.
Oui.
Il y a Québec Compostelle, c'est moi, Pascal Auger, entrepreneur qui donne des conférences, des formations, qui va partir en rando séjour avec des gens pendant une semaine. Et à côté de ça, il y a le Chemin du Québec. Le Chemin du Québec, c'est une entité, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré par un conseil d'administration avec des bénévoles. Puis oui, les deux vont travailler ensemble, mais n'importe qui peut aller marcher sur le Chemin du Québec. Là. C'est pas obligé de juste Québec-Compostelle, puis c'est ce qui se produit de plus en plus. Mais oui, donc le Chemin du Québec, à titre d'OBNL, travaille là-dessus pour voir comment on pourrait éventuellement le baliser. Mais comme je te dis, c'est pas un petit tracé de 250 km, là. C'est 1200 km. Mais oui, ça fait partie des idées, des projets. Puis plus qu'on en parle, comme là on fait, plus qu'on en diffuse en ligne, plus que ça allume des gens. Puis des fois, ben, t'as quelqu'un qui écoute, puis ah, lui, il travaille au ministère du Tourisme, whatever, puis il pousse davantage. C'est une question de contact, d'intérêt et tout aussi. Hein. Tu sais comment ça marche, un gouvernement? Ça fonctionne là où les gens, la tendance va. Fait que s'ils voient que les gens ça les intéresse ça, ben, ils vont y aller là. Donc, c'est pour ça que souvent, les ministères, les touristes, ils attendent pour voir, ils testent l'eau, tu sais. Je dis, si tu as un intérêt là, on met-tu de l'argent là pour rien ou pas? Fait que, c'est un work in progress, finalement, là.
Mais pourquoi je te parle de ça, Pascal? C'est simple. C'est parce qu'avec la COVID, il y a beaucoup plus de monde qui ont commencé à marcher.
Ben oui.
Puis, tu sais, comme exemple, moi, j'ai eu un invité, Jean-François Féjaz, qui a parti un peu un chemin à partir de Paris. Puis qui se bat avec les municipalités pour faire installer des coquilles à terre pour faire du balisage.
Ouais.
Puis les municipalités, ben, ils sont plus enclins, là, justement, à cause de la COVID. Les gens, ben, ils veulent marcher, ils veulent. Tu sais, c'est. Toi, t'as-tu remarqué plus d'achalandage depuis qu'on est en COVID ou c'est le contraire que tu as remarqué, toi?
Ben moi j'ai remarqué plus la sensibilisation envers la marche. Maintenant, est-ce que ça va rester? On verra. Mm-hmm. Mais oui, il y a un intérêt supplémentaire parce qu'il y a eu un temps où c'était tout ce qu'on pouvait faire. Mais il y a une différence également entre faire ce que j'appelle une rando loisir, une rando d'une heure, d'un jour ou d'un week-end, et de passer à la prochaine étape de randonnée pédestre de longue durée qui est comme Compostelle. Ouais. Mais déjà, si on peut faire marcher les gens davantage, c'est un peu ça aussi l'idée. Hein? Plus on va les faire marcher, plus notre santé personnelle va être meilleure, notre santé physique, notre santé mentale, puis notre santé en tant que société également. Puis c'est un peu ça aussi l'idée en arrière de tout ça, tu sais. Mm-hmm. Moi, je suis le gars, on l'a dit tantôt, l'instigateur, coordinateur, tu sais, mais à quelque part, tu sais, il arrive un moment donné dans ta vie où tu veux redonner à la société, tu veux partager des valeurs importantes. Puis moi, c'est ça. T'sais, moi, c'est ce que je peux faire. Moi, je suis un communicateur. Je peux communiquer le plaisir, la bonté, le bonheur de la rando. Donc, ouais. Faisons-nous plaisir puis prenons-nous en main. Alors oui, s'il peut y avoir un côté positif de la COVID, que les gens vont marcher davantage, mais bon, juste tant mieux.
Ouais. Puis sur ton site de Québec Compostelle, tu touches à bien plus que juste la marche. Tu as des interviews, des conférences, des ateliers, des randos séjours. Puis tu as même une portion que je trouve assez pas pire, c'est tu vas même magasiner avec les gens.
Ouais.
C'est complet, là. C'est vraiment, vraiment complet. Là. À partir du moment
Il faut être complet. Il faut être complet parce que il faut, tu sais, quand tu as un projet, il faut que tu répondes aux besoins des gens. Il faut pas que tu dises « Ah, moi, je vais inventer un produit » puis je vais l'offrir aux gens. Non, faut que tu écoutes les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis tu leur offres qu'est-ce qu'ils ont besoin. Moi, j'ai fait ça, les réseautages magasinages que j'appelle, parce que je donne des formations. Hein. À chaque mois, je donne une formation, que ce soit en ligne ou en direct, puis en personne. Mm-hmm. Puis écoute, là, c'est intense, là. Tu sais, je sais, j'ai des gens qui viennent, là, puis ça dure plus de 14 heures. C'est un week-end complet, là. Puis je sais, les gens, ils viennent, ils disent, de qu'est-ce qu'ils vont me parler pendant 14 heures, là, tu sais, là. Ben, de un, là-dedans, il y a une rando qui prend le dimanche, fait que c'est du temps sur le chemin. Mais le samedi complet, là, je passe à travers tout ce qui est de marcher au Québec et Compostelle, comment ça marche, ou marcher, ou manger, ou dormir. Puis je passe à travers tout l'équipement. Fait que je peux-tu te dire que c'est du stock.
Ben
puis
oui.
On le sait que l'être humain retient à peu près 30% de ce qu'on lui enseigne. Là, mm-hmm. là. Alors moi, en complément à ça, ben, j'ai créé entre autres les abonnements que les gens peuvent tous revoir. Les formations que je leur donne peuvent toutes le revoir dans le confort de leur foyer parce que c'est enregistré, puis ils peuvent faire pause, puis réécouter, puis comprendre. Puis en plus de ça, je dis, ben, écoutez, quand vient le temps d'aller au magasin, là, c'est pas évident. Tu arrives devant un mur de sacs à dos. Il faut que tu choisisses le bon. Puis là, ben, en formation, je leur explique comment choisir un bon sac à dos. Mais tu sais, quand les gens, ils vont deux, trois semaines ou deux, trois mois plus tard, ils sont un peu intimidés, ils sont plus certains et tout. Je dis, regarde, on va y aller ensemble, puis je vais vous aider à choisir le bon sac à dos, les bons bas, le bon chandail. Puis moi, je pars toujours avec la base. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour faire dépenser de l'argent aux gens. Au contraire, je suis là pour les faire magasiner de manière intelligente. Puis ça, tout le monde en est gagnant. Le consommateur, le marcheur est gagnant. Puis à quelque part, le commerce est gagnant également parce qu'il sort avec quelqu'un qui est satisfait, qui est content, qui va peut-être devenir un client à long terme pour ce commerce-là, finalement. Alors, quand tu éduque bien tes gens, ben, tout le monde est gagnant. Puis c'est pour ça. Puis je vous appelle ça réseautage-magasinage. Magasinage, parce qu'on magasine. Puis réseauté, ouais. Ben, c'est parce qu'on fait ça en petits groupes de 10. Fait que, tu sais, ça crée un réseau de marcheurs. Puis les gens deviennent, créent une communauté, puis partagent entre eux, deviennent des amis. Moi, quand je termine toutes mes activités de week-end formation ou de rando séjour, je dis tout le monde s'échange les Facebook, les courriels et tout ça. Puis ils deviennent chums, un peu comme Compostelle.
Ben ouais, ben ouais, ben ouais. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pascal, pour la fin de l'année?
Écoute,
qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux, là?
Ah, préciser comme ça, que le développement du chemin se multiplie et continue dans sa belle lancée présentement, que les gens l'endossent positivement. Peu importe qui on est, le chemin et le chemin du Québec, en plus, n'est pas là pour compétitionner les autres circuits québécois. Il est là pour être un complément. Parce que quand tu vas chercher sur le chemin du Québec, ben, à un moment donné, tu vas peut-être en chercher d'autres. Mm-hmm. Puis tu vas découvrir qu'il y en a, hey, dans mon patelin, puis qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres styles. Donc, ça va venir complémenter les autres et non pas les compétitionner. Et ça va venir également donner une vague supplémentaire pour des gens qui offrent ce genre de matériel-là également, qui trouvent ça dur présentement parce qu'on ne marche pas à l'international. Des gens qui étaient peut-être spécialisés pour Compostelle, ben, tu sais, on vient de trouver une alternative intéressante. Donc, travaillons ensemble là-dessus et de découvrir le Québec un pas à la fois. Donc, si ensemble, on fonctionne comme une belle famille et on le propage, ben, ce sera le plus beau cadeau dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pour tout le monde, on est tous gagnants. On est gagnants pour notre santé physique, notre santé mentale, puis nos communautés sont gagnantes pour leur santé économique également, alors touristique. Alors, on est tous gagnants si on travaille ensemble.
Ben, merci beaucoup, Pascal, pour cette belle rencontre-là. Puis si jamais tu cherches quelqu'un pour marcher l'hiver ton chemin, ben, il y a toujours Buddy du Cabido qui adore marcher l'hiver, tu le sais, à Compostelle. Fait que il pourra sûrement venir le faire au Québec l'hiver.
Il y a bien des Européens qui veulent soit venir marcher à l'automne ou à l'hiver au Québec.
Ouais, exactement. Fait que merci beaucoup. Puis surtout, continue ton bon travail. On te suit, puis on te lâchera pas.
Ben, merci beaucoup, Daniel. C'était un grand plaisir de faire cet entretien avec toi.
Passe une excellente journée.
Merci. Ça marche.
Et buon camino.
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buon camino.